Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, l'Éthiopie, où l'avancée inexorable des rebelles vers la capitale se précise, la France évacue ses ressortissants. Notre correspondant sur place nous en dira plus. Nous ferons le point sur les élections municipales en Afrique du Sud, où l'ANC, le parti au pouvoir, a subi un sérieux revers en perdant notamment la capitale. Nous rejoindrons ensuite notre correspondante en Roumanie, qui a un nouveau gouvernement après 2 mois de crise et de paralysie politique. Et puis notre dossier sera consacré à la Libye, qui votera dans 1 mois pour son nouveau président, mais tout demeure incertain dans ce pays dilacéré par 10 ans de guerre et perclus de divisions.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. L'Éthiopie s'enfonce toujours plus dans la guerre civile. Les rebelles tigréens et Oromo, en guerre depuis 1 an avec le gouvernement, s'approchent de la capitale Addis Abeba. Les négociations entamées ce mois-ci pour arracher un cessez-le-feu n'ont en effet rien donné. Et hier, la France a ordonné le départ de ses ressortissants en Éthiopie. Sur place, on retrouve Noé Ochebaudin.
Un léger vent de panique souffle sur Addis Abeba. La coalition rebelle progresse encore. Elle se bat désormais pour le contrôle du col de Debrecina, l'un des derniers obstacles majeurs, à 180 km au nord de la capitale éthiopienne. En réaction, le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé de se muer en chef des armées. Lui, l'ancien lieutenant-colonel, a annoncé partir au front pour combattre en personne les rebelles. Il est temps de se sacrifier pour le pays, a-t-il dit, mais aucun détail n'a filtré sur ses déplacements jusqu'à présent. Mais alors que l'état d'urgence est en place depuis 3 semaines et que les opérations militaires s'accélèrent, la France appelle ses citoyens à quitter sans délai le territoire par les vols commerciaux, un mouvement entamé par les États-Unis il y a quelques jours et désormais suivi par les Nations Unies. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, Radio Vatican.
La colère est toujours vive au Soudan, malgré l'accord conclu entre les militaires et le Premier ministre Abdallah Hamdok et la libération de personnalités civiles. Beaucoup de personnes restent encore en prison et les arrestations se poursuivent, selon un collectif d'avocats. Plus généralement, une partie de la population refuse le compromis signé avec les militaires putschistes. De nouvelles manifestations sont prévues demain, jeudi. Le Mali reporte les assises nationales. Elles devaient avoir lieu fin décembre et devaient aboutir à l'établissement d'une date pour de futures élections. Cette initiative lancée par la junte au pouvoir cristallise l'opposition de la classe politique malienne. Partons maintenant pour l'Afrique du Sud. Les municipales qui ont eu lieu début novembre n'ont pas vu une majorité gagnante dans les villes principales. Après avoir formé une coalition, plusieurs partis d'opposition remportent Johannesburg et Pretoria, la capitale sud-africaine. Il s'agit là d'un revers historique pour l'ANC, le parti au pouvoir de Nelson Mandela, qui perd en crédibilité face aux Sud-Africains. Les détails de notre correspondant, Gabriel Porometto.
On l'appelle déjà le lundi noir. C'est le jour où l'ANC a perdu d'un seul coup les municipalités les plus importantes d'Afrique du Sud. Pretoria et Johannesburg sont tombés sous la bannière de l'opposition, alors que les promesses de l'ANC au pouvoir depuis 27 ans n'ont pas été entendues. En particulier après que le pays ait été frappé par des coupures de courant quotidiennes, à cause de la détérioration des infrastructures. De nouveaux visages ont surgi, et pour Johannesburg, c'est une femme. Elle s'appelle Mfofalatse et c'est la première femme à prendre la tête de la capitale économique sud-africaine. Appuyée par une coalition de plusieurs partis d'opposition, dont DA et Action South Africa, cette médecin de 44 ans propose une modernisation des structures routières et énergétiques de la ville. Un autre candidat du DA, Randall Williams, a été confirmé à la tête de Pretoria, ville déjà remportée par l'opposition municipale précédente. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reconnu mardi que son parti a reçu une grande leçon de la part du peuple sud-africain. Ces élections municipales ont vu pour la première fois l'ANC passer en dessous de 50% de voix à travers le pays. Johannesburg, Gabriel Porometto pour Radio Vatican.
Entretien téléphonique hier entre les chefs d'état-major russes et américains sur fond d'inquiétudes grandissantes des Occidentaux au sujet de l'Ukraine et notamment des mouvements de troupes russes constatés aux frontières du pays. Moscou se défend de toute velléité belliqueuse. Une possible nouvelle rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine est sur la table, a-t-on appris, mais sa date et ses modalités sont encore en discussion. Nous vous en parlions hier. La Roumanie a enfin un nouveau gouvernement. Après 2 mois de crise politique et institutionnelle, les libéraux et les sociaux-démocrates se sont mis d'accord. Les dirigeants des deux partis vont prendre à tour de rôle les rênes du gouvernement. À Bucarest, Iliana Taroy.
Les sociodémocrates dominent la nouvelle équipe gouvernementale de Bucarest en assumant des ministères importants qui gèrent des fonds substantiels tels les finances publiques, les transports ou encore la défense. La nouvelle coalition politique propose un programme économique avec une empreinte social-démocrate visible, annonçant par exemple des majorations de retraite et d'allocations pour l'année prochaine, et le partage surprenant de la fonction de Premier ministre. Celle-ci est assumée jusqu'en 2023 par les libéraux et ensuite par les sociodémocrates qui organiseront ainsi les trois scrutins local, législatif et présidentiel de 2024. Enfin, le gouvernement inclut un nouvellement créé ministère de la Famille dont le portefeuille devrait être assumé par évidemment une femme, la seule d'ailleurs de la nouvelle équipe exécutive que le Parlement devrait voter jeudi. Ilana Tseroy à Bucarest pour Radio Vatican.
La Chine voit s'effondrer son taux de natalité au plus bas depuis 40 ans. Il est à 8,52 naissances pour 1000 habitants. Les encouragements du gouvernement communiste ne convainquent pas les familles à s'agrandir en raison notamment de la hausse du coût de la vie. Ce mercredi, 46 personnes comparaissent à Istanbul, en Turquie. Leur point commun, il s'agit pour beaucoup de frères, de sœurs, fils ou filles de personnes disparues en garde à vue dans les années 80 et 90, dont ces familles n'ont plus jamais eu de nouvelles. Depuis 1995, elles se rassemblaient chaque samedi pour manifester en silence et réclamer à l'État la vérité sur le sort de leurs proches. Désormais, leurs rassemblements sont interdits et ces familles se retrouvent ensemble sur le banc des accusés. À Istanbul, à Landlower.
Depuis 41 ans, une famille remue ciel et terre pour savoir ce qui est arrivé à Hayrettin Eren, placé en garde à vue au lendemain du putsch militaire du 12 septembre 1980. La version officielle, rien. Hayrettin n'a pas été arrêté, pas besoin d'ouvrir une enquête, encore moins un procès. Voilà pourquoi chaque samedi depuis 1995, il protestait en silence avec d'autres proches de disparus sur une place d'Istanbul. Le 25 août 2018, leur manifestation a été dispersée. Elle est désormais interdite et 46 personnes sont jugées pour violation de la loi sur les rassemblements. C'est le cas de Faruk Eren, le frère de Hayrettin.
La moindre quête de justice est réprimée en Turquie. J'ai le sentiment qu'on essaie d'envoyer un message à la société à travers nous. Mais notre lutte est déterminée. Nous n'y renoncerons pas parce que notre demande est extrêmement simple. Nous voulons une tombe pour nos proches. Ce n'est quand même pas trop demandé.
Privées de place publique, ces familles veulent utiliser chaque audience du procès pour parler de leurs disparus, crier leur nom et leur douleur.
Cela fait des décennies que nous voulions raconter notre histoire devant un tribunal. Sauf que là, nous sommes sur le banc des accusés. Mais nous ne serons pas jugés, c'est nous qui allons juger. Raison pour laquelle je pense que ce procès ne durera pas. Les juges vont nous acquitter ou prononcer un non-lieu. Alors, nous condamner, nous sommes en Turquie après tout. Le droit varie en fonction du climat politique.
Faruk Eren et ses co-accusés risquent jusqu'à 3 ans de prison. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
La Turquie qui reçoit la visite ce mercredi du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, va y rencontrer le président turc Erdogan. Une première pour les deux dirigeants depuis près de 10 ans, signe d'un rapprochement qui se concrétise, même si les deux pays affichent des divergences sur presque tous les dossiers géopolitiques de la région. Une opération de la NASA digne d'un film hollywoodien. L'agence spatiale américaine envoie ce mercredi un vaisseau dans l'espace. Sa mission est dévier un astéroïde de sa trajectoire. Alors pas de danger immédiat pour la Terre, assurez-vous. Il s'agit juste d'un test grandeur nature. L'objectif est de prémunir notre planète contre de futures et hypothétiques collisions avec d'autres corps célestes. Et puis comme chaque mercredi, l'audience générale du pape François débute à 9h15 en salle Paul VI du Vatican. Elle est à suivre en direct avec images et commentaires en français sur notre site internet et notre page Facebook. Le Saint-Père doit poursuivre son cycle de catéchèses consacré à Saint-Joseph qu'il a inauguré la semaine dernière. Dans tout juste un mois, le 24 décembre, la Libye a rendez-vous avec les urnes. L'élection présidentielle est censée donner au pays une stabilité après 10 ans de guerre et de chaos qui ont suivi le renversement et la mort du colonel Muammar Kadhafi. C'était en 2011. La communauté internationale suit de près ce rendez-vous car ce scrutin attire les convoitises. Pas moins de 98 candidats se sont déclarés jusqu'à présent. Parmi les figures qui se sont déclarées pour prendre les rênes du pays, celle du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, qui a tenté par deux fois déjà de prendre Tripoli avec ses troupes, ou encore Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dictateur. Mais derrière les noms, le processus électoral libyen reste très fragile et les inconnues nombreuses. Les pressions de la communauté internationale sur l'avenir de la Libye ne sont pas de bon augure, selon Jalel Archaoui. Il est membre du Centre de réflexion Global Initiative à Genève, spécialiste des pays d'Afrique du Nord.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est le caractère fragile des lois électorales qui ont été improvisées par des individus qui sont intéressés à candidater. Donc vous pouvez imaginer les conflits d'intérêts que cela suppose. Ces lois électorales ont été passées en catimini au mois de septembre et au mois d'octobre. Et dans une atmosphère plus saine, il aurait dû y avoir plus de temps pour en discuter et éventuellement effectuer des amendements. Les lois électorales ne sont pas fragiles par hasard, elles sont fragiles presque par conception. Cela veut dire concrètement que si effectivement le premier tour des présidentielles a lieu le 24 décembre, ce qui existe dans les livres, si vous voulez, d'un point de vue législatif, est tellement incomplet que cela peut créer une atmosphère non seulement polarisée, violente, mais aussi avec aucune garantie légale qu'il y ait un second tour à la présidentielle et encore moins des législatives avec une certaine simultanéité vis-à-vis du second tour de la présidentielle. Le fait de s'obséder, de focaliser comme ça sur le premier tour de la présidentielle, ça peut laisser la Libye complètement au milieu du guet avec une expérience qui finalement aura discrédité l'exercice démocratique en plus de venir exacerber la crise.
Mais là, dans ce cas-là, la communauté internationale porterait une lourde responsabilité, puisque c'est elle qui pousse à ces élections, les Nations Unies, les différentes grandes puissances qui ont fait pression sur Tripoli pour que ce scrutin ait lieu, ce scrutin du 24 décembre.
Oui, en fait, ce que je condamne ici, ce n'est pas tellement le fait de pousser. On peut pousser de manière extrêmement constructive, maligne, judicieuse, avec une diplomatie qui soit réfléchie, impartiale, habile, mais pressuriser les Libyens tout en se contentant d'effets d'annonce, par exemple se fixer sur une date comme ça très symbolique, le 70e anniversaire de l'indépendance libyenne, ça crée une rigidité tout à fait artificielle et qui est dangereuse.
Si on revient un peu sur les principales personnalités qui ont fait acte de candidature, il y a bien sûr le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de Cyrénaïque, qui avait failli prendre Tripoli il y a quelques mois. Que représente Haftar aujourd'hui sur la scène politique derrière son passé militaire?
Déjà, c'est quelqu'un qui avait tenté un coup qui consistait à suspendre la constitution en février 2014. C'était un coup qui s'était très mal passé, il avait été ridiculisé à l'époque. Mais les gens se souviennent de ce moment. Il a évidemment aussi bombardé l'aéroport de Tripoli en décembre 2014, il a réattaqué Tripoli en 2019. Donc ce n'est pas une incarnation de Thomas Jefferson, si vous voulez.
Parmi les autres figures, il y a évidemment aussi l'actuel Premier ministre de transition, Abdelhamid Dbeiba. Quelles sont un peu ses chances? Est-ce qu'il est vu par les Libyens comme justement l'homme des Nations Unies, de la communauté internationale, et du coup avec beaucoup de défiance, ou a-t-il des chances?
Non, il ne le voit pas comme le personnage des Nations Unies. Ce que les Libyens savent, c'est que pour la première fois, un Premier ministre jouit d'un partenariat extrêmement étroit avec le gouverneur de la Banque Centrale. Et c'est un pays, la Libye, où le simple fait de pouvoir retirer son salaire sous forme d'espèces était longtemps impossible. Du fait de cette alliance absolument stratégique qui existe entre le Premier ministre et le gouverneur de la Banque Centrale, cette année, certaines catégories de professions, comme par exemple les enseignants, ont reçu des augmentations de salaire. Il y a eu aussi des nouveaux programmes de bourse pour les étudiants. Mais dans un pays fatigué, le fait de livrer quelques petites réalités comme ça qui sont tangibles, ça suffit pour convaincre un certain nombre de ménages. Il ne faut pas sous-estimer la popularité qu'il porte, même si, en théorie, il n'a pas le droit de se porter candidat.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Jalel Archaoui, membre du Centre de réflexion Global Initiative à Genève et spécialiste de la Libye, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et puis, à un mois de cette élection présidentielle cruciale, on a appris hier la démission de l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Le Slovaque Jan Kubis n'a pas donné de raison à son départ. Les Nations Unies disent travailler à lui trouver un successeur. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité vaticane et internationale revient à 13h. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. D'ici là, belle matinée à toutes et à tous.